Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici de nouveau ensemble pour nos lectures en liberté. Et je vous propose cette semaine de débuter la lecture d'un roman de Patrick Modiano, prix Nobel de littérature, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Presque rien. Comme une piqûre d'insecte qui vous semble d'abord très légère. Du moins, c'est ce que vous vous dites à voix basse pour vous rassurer. Le téléphone avait sonné vers 4 heures de l'après-midi chez Jean Darragan, dans la chambre qu'il appelait le bureau. Il s'était assoupi sur le canapé du fond à l'abri du soleil, et ses sonneries qu'il n'avait plus l'habitude d'entendre depuis longtemps ne s'interrompaient pas. Pourquoi cette insistance? À l'autre bout du fil, on avait peut-être oublié de raccrocher. Enfin, il se leva et se dirigea vers la partie de la pièce près des fenêtres, là où le soleil tapait fort. « J'aimerais parler à Monsieur Jean Darragan. » Une voix menaçante. Ce fut sa première impression. « Monsieur Darragan, vous m'entendez ?» Darragan voulut raccrocher. Mais à quoi bon ? Les sonneries reprendraient sans jamais s'interrompre et, à moins de couper définitivement le fil du téléphone, lui-même. C'est au sujet de votre carnet d'adresse, monsieur. Il l'avait perdu le mois dernier dans un train qui l'emmenait sur la Côte d'Azur. Oui, ce ne pouvait être que dans ce train. Le carnet d'adresse avait sans doute glissé de la poche de sa veste au moment où il en sortait son billet pour le présenter au contrôleur. « J'ai trouvé un carnet d'adresse à votre nom. » Sur sa couverture grise était écrit « En cas de perte, renvoyez ce carnet à… » Et Darragan, un jour, machinalement, y avait écrit son nom, son adresse et son numéro de téléphone. « Je vous le rapporte à votre domicile, le jour et l'heure que vous voulez. » Oui, décidément une voix menaçante. Et même, pensa Darragan, un ton de maître chanteur. « Je préférerais que nous nous rencontrions à l'extérieur. » Il avait fait un effort pour surmonter son malaise. Mais sa voix, qu'il aurait voulu indifférente, lui sembla brusquement une voix blanche. « Comme vous voudrez, monsieur. » Il y eut un silence. « C'est dommage. Je suis tout près de chez vous. J'aurais aimé vous le remettre en main propre. » Darragan se demanda si l'homme ne se tenait pas devant l'immeuble et s'il ne resterait pas là en guettant sa sortie. Il fallait se débarrasser de lui au plus vite. « Voyons-nous demain après-midi, » finit-il par dire. « Si vous voulez, mais alors près de mon lieu de travail, du côté de la gare Saint-Lazare. » Il était sur le point de raccrocher, mais il garda son sang-froid. « Vous connaissez la rue de l'Arcade ?» demanda l'autre. « Nous pourrions nous retrouver dans un café au 42 rue de l'Arcade. Daragan nota l'adresse. Il reprit son souffle et dit « Très bien, monsieur. Au 42 rue de l'Arcade, demain à 5h du soir. » Puis il raccrocha sans attendre la réponse de son interlocuteur. Il regretta aussitôt de s'être comporté de manière aussi brutale, mais il mit cela au compte de la chaleur qui pesait sur Paris depuis quelques jours, une chaleur inhabituelle pour le mois de septembre. Elle renforçait sa solitude. Elle l'obligeait à rester enfermé dans cette chambre jusqu'au coucher du soleil. Et puis, le téléphone n'avait plus sonné depuis des mois. Et le portable sur son bureau, il se demanda quand il l'avait utilisé pour la dernière fois. Il savait à peine s'en servir et se trompait souvent quand il appuyait sur les touches. Si l'inconnu n'avait pas téléphoné, il aurait oublié pour toujours la perte de ce carnet. Il tentait de se souvenir des noms qui y figuraient. La semaine précédente, il voulait même le reconstituer, et sur une feuille blanche, il avait commencé à dresser une liste. Au bout d'un instant, il avait déchiré la feuille. Aucun des noms n'appartenait aux personnes qui avaient compté dans sa vie et dont il n'avait jamais eu besoin de noter les adresses et les numéros de téléphone. Il les savait par cœur. Sur ce carnet, rien que des relations dont on dit qu'elles sont d'ordre professionnel, quelques adresses prétendument utiles, pas plus d'une trentaine de noms. Et parmi eux, plusieurs qu'il aurait fallu supprimer parce qu'ils n'avaient plus cours. La seule chose qui l'avait préoccupé après la perte du carnet, c'était d'y avoir mentionné son nom à lui et son adresse. Bien sûr, il pouvait ne pas donner suite et laisser cet individu attendre vainement au 42 rue de l'Arcade. Mais alors, il resterait toujours quelque chose en suspens, une menace. Il avait souvent rêvé au creux de certains après-midi de solitude que le téléphone sonnerait et qu'une voix douce lui donnerait rendez-vous. Il se rappelait le titre d'un roman qu'il avait lu, « Le temps des rencontres ». Peut-être ce temps-là n'était-il pas encore fini pour lui. Mais la voix de tout à l'heure ne lui inspirait pas confiance. À la fois molle et menaçante, cette voix. Oui. Il demanda au chauffeur de taxi de le laisser à la Madeleine. Il faisait moins chaud que les autres jours et l'on pouvait marcher à condition de choisir le trottoir de l'ombre. Il suivait la rue de l'Arcade, déserte et silencieuse sous le soleil. Il ne s'était pas trouvé dans ces parages depuis une éternité. Il se souvint que sa mère jouait dans un théâtre des environs et que son père occupait un bureau tout au bout de la rue à gauche, au 73 boulevard Haussmann. Il fut étonné d'avoir encore la mémoire de ce numéro, le 73. Mais tout ce passé était devenu si translucide avec le temps, une buée qui se dissipait sous le soleil. Le café était à l'angle de la rue et du boulevard Haussmann. Une salle vide, un long comptoir surmonté d'étagères comme dans un self-service ou un ancien Wimpy. Daragan s'assit à l'une des tables du fond. Cet inconnu viendrait-il au rendez-vous? Les deux portes étaient ouvertes, l'une sur la rue et l'autre sur le boulevard, à cause de la chaleur. De l'autre côté de la rue, le grand immeuble du 73. Il se demanda si l'une des fenêtres du bureau de son père ne donnait pas de ce côté-là. À quel étage? Mais ses souvenirs se dérobaient à lui au fur et à mesure, comme des bulles de savon ou les lambeaux d'un rêve qui se volatilise au réveil. Sa mémoire aurait été plus vivace dans le café rue des Mathurins, devant le théâtre, là où il attendait sa mère, ou aux alentours de la gare Saint-Lazare, une zone qu'il avait beaucoup fréquentée autrefois, mais non, certainement pas. ce n'était plus la même ville. Monsieur Jean d'Aragane ? Il avait reconnu la voix. Un homme d'une quarantaine d'années se tenait devant lui, accompagné d'une fille plus jeune que lui. Gilles Ottolini. C'était la même voix. Il désignait la fille, une amie, Chantal Grippet. D'Aragane demeurait sur la banquette, immobile, sans même leur tendre la main. Ils s'assirent tous deux en face de lui. « Veuillez nous excuser, nous sommes un peu en retard. » Il avait pris un ton ironique, sans doute pour se donner une contenance. Oui, c'était la même voix, avec un léger, presque imperceptible accent du midi, que D'Aragane n'avait pas remarqué la veille au téléphone. Une peau couleur ivoire, des yeux noirs, un nez aquilin, le visage était mince, aussi coupant de face que de profil. « Voilà votre bien !» dit-il à D'Aragane, sur le même ton ironique qui semblait cacher une certaine gêne. Il sortit de la poche de sa veste le carnet d'adresse. Il le posa sur la table en le couvrant de la paume de la main, les doigts écartés. On aurait dit qu'il voulait empêcher D'Aragane de le prendre. La fille se tenait légèrement en retrait, comme si elle ne voulait pas attirer l'attention sur elle, une brune d'une trentaine d'années, les cheveux mi-longs. Elle portait une chemise et un pantalon noir. Elle jeta un regard inquiet sur D'Aragane. À cause de ses pommettes et de ses yeux bridés, il se demanda si elle n'était pas d'origine vietnamienne ou chinoise. « Et où avez-vous trouvé ce carnet ?»« Par terre, sous une banquette du buffet de la gare de Lyon. » Il lui tendit le carnet d'adresse. D'Aragane l'enfonça dans sa poche. En effet, il se souvint que le jour de son départ pour la Côte d'Azur, il était arrivé en avance à la gare de Lyon et qu'il s'était assis au buffet du premier étage. « Vous voulez boire quelque chose ?» demanda le dénommé Gilles Ottolini. D'Aragane eut envie de leur fausser compagnie, mais il se ravisa. « Un Schweppes. Essaie de trouver quelqu'un pour prendre la commande. Ce sera un café pour moi, » dit Ottolini en se tournant vers la fille. Celle-ci se leva aussitôt apparemment. Elle avait l'habitude de lui obéir. Ça devait être gênant pour vous d'avoir perdu ce carnet. Il sourit, d'un drôle de sourire qui sembla à D'Aragane insolent. Mais c'était peut-être de sa part de la maladresse ou de la timidité. Vous savez, dit D'Aragane, je ne téléphone pratiquement plus. L'autre lui jeta un regard étonné. La fille revenait vers leur table et reprit sa place. « Ils ne servent plus à cette heure, ils vont fermer. » C'était la première fois que D'Aragane entendait la voix de cette fille, une voix rauque, et qui n'avait pas le léger accent du midi de son voisin. Plutôt l'accent parisien, si cela signifie encore quelque chose. « Vous travaillez dans le coin ?» demanda D'Aragane. « Dans une agence de publicité rue Pasquier, l'agence Swirtz. »« Et vous aussi ?» Il s'était tourné vers la fille. « Non, » dit Ottolini sans laisser le temps de répondre à la fille. « Elle ne fait rien pour le moment. » Et de nouveau ce sourire crispé. La fille aussi esquissait un sourire.
À Paris, dans chaque faubourg, le soleil de chaque journée fait en quelque destinée éclore un rêve d'amour. Parmi la foule, un amour se pose sur une âme de 20 ans. Pour elle, tout se métamorphose, tout est couleur de printemps. À Paris, quand le jour se lève, à Paris, dans chaque faubourg, à 20 ans, on fait des rêves. Tout est couleur d'amour. Ils habitaient le même faubourg, la même rue et la même cour. Ils lui lançaient des sourires, elle l'aimait sans lui dire. Mais un jour qu'un baiser les unit, dans le ciel elle crut lire comme un espoir infini. À Paris, dans chaque faubourg, le soleil de chaque journée fait en quelque destinée éclore un rêve d'amour. Parmi la foule, un amour se pose sur une âme de 20 ans. Pour elle, tout se métamorphose, tout est couleur de printemps. À Paris, quand le jour se lève, à Paris, dans chaque faubourg, à 20 ans, on fait des rêves. Tout est couleur d'amour.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après la musique, nous revenons donc au roman de Patrick Modiano « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier ». Daragan avait hâte de prendre congé. S'il ne le faisait pas tout de suite, parviendrait-il à se débarrasser d'eux ? « Je vais être franc avec vous. » Il se penchait vers Daragan et sa voix était plus aiguë. Daragan éprouva le même sentiment que la veille au téléphone, oui. Cet homme avait une insistance d'insecte. « Je me suis permis de feuilleter votre carnet d'adresses, une simple curiosité. » La fille avait tourné la tête comme si elle feignait de ne pas entendre. « Vous ne m'en voulez pas ?» Daragan le regarda droit dans les yeux. L'autre soutenait son regard. « Pourquoi vous en voudrais-je ?» Un silence. L'autre avait fini par baisser les yeux, puis, avec la même voix métallique, « Il y a quelqu'un dont j'ai trouvé le nom dans votre carnet d'adresses. J'aimerais que vous me donniez des renseignements sur lui. » Le ton était devenu plus humble. « Excusez mon indiscrétion. » « De qui s'agit-il ? » demanda Daragan à contre-cœur. Il éprouvait brusquement le besoin de se lever et de marcher à pas rapides vers la porte ouverte sur le boulevard Haussmann et de respirer à l'air libre. D'un certain Guy Tortstel. Il avait prononcé le prénom et le nom en articulant bien les syllabes, comme pour éveiller la mémoire assoupie de son interlocuteur. « Vous dites ?»« Guy Tortstel. » Daragan sortit de sa poche le carnet d'adresse et l'ouvrit à la lettre T. Il lut le nom tout en haut de la page. Mais ce Guy Tortstel n'évoquait rien pour lui. « Je ne vois pas qui ça peut être. »« Vraiment ?» L'autre paraissait déçu. « Il y a un numéro de téléphone à 7 chiffres, » dit Daragan. « Ça doit dater d'au moins une 30aine d'années. » Il tourna les pages. Tous les autres numéros de téléphone étaient bien ceux d'aujourd'hui, à 10 chiffres. Et ce carnet d'adresse, il ne s'en servait que depuis 5 ans. « Ce nom ne vous dit rien ?»«
Non. »
Quelques années auparavant, il aurait fait preuve de cette amabilité que tout le monde lui reconnaissait. Il aurait dit « Laissez-moi un peu de temps pour éclaircir le mystère. » Mais les mots ne venaient pas. « C'est à cause d'un fait divers sur lequel j'ai réuni pas mal de documentation, » reprit l'autre. « Ce nom est cité, voilà. » Il paraissait brusquement sur la défensive. « Quel genre de fait divers ?» Daragan avait posé la question machinalement, comme s'il retrouvait ses vieux réflexes de courtoisie. « Un très ancien fait divers. Je voudrais écrire un article là-dessus. Au début, je faisais du journalisme, hein, vous savez. » Mais l'attention de Daragan se relâchait. Il devait vraiment leur fausser compagnie au plus vite, sinon cet homme allait lui raconter sa vie. « Je suis désolé, lui dit-il, j'ai oublié ce Tortstel. À mon âge, on a des pertes de mémoire. Je dois malheureusement vous quitter. » Il se leva et leur serra la main tous les deux. Ottolini lui jeta un regard dur, comme si Daragan l'avait injurié et qu'il était prêt à répliquer d'une manière violente. La fille, elle, avait baissé les yeux. Il marcha vers la porte vitrée grande ouverte qui donnait sur le boulevard Haussmann, en espérant que l'autre ne lui barrerait pas le passage. Dehors, il respira à plein poumon. Quelle drôle d'idée, ce rendez-vous, avec un inconnu. Lui qui n'avait vu personne depuis 3 mois et qui ne s'en portait pas plus mal, au contraire. Dans cette solitude, il ne s'était jamais senti aussi léger, avec de curieux moments d'exaltation le matin ou le soir, comme si tout était encore possible et que, selon le titre du vieux film, l'aventure était au coin de la rue. Jamais, même durant les étés de sa jeunesse, la vie ne lui avait paru aussi dénuée de pesanteur que depuis le début de cet été-là. Mais l'été tout en suspens, une saison métaphysique, lui disait jadis son professeur de philosophie, Maurice Cavingue. C'est drôle. Il se rappelait le nom Cavingue, et il ne savait plus qui était ce Tortstel. Il y avait encore du soleil, et une légère brise atténuait la chaleur. À cette heure-là, le boulevard Haussmann était désert. Au cours des 50 dernières années, il était souvent passé par là, et même dans son enfance, quand sa mère l'emmenait un peu plus haut sur le boulevard, au grand magasin du printemps. Mais ce soir, cette ville lui semblait étrangère. Il avait largué toutes les amarres qui pouvaient encore le relier à elle, ou bien c'est elle qui l'avait largué, rejeté. Il s'assit sur un banc et sortit le carnet d'adresse de sa poche. Il s'apprêtait à le déchirer et à en éparpiller les morceaux dans la corbeille de plastique vert à côté du banc, mais il hésita. Non, il le ferait tout à l'heure chez lui, en toute tranquillité. Il feuilleta distraitement le carnet. Parmi ses numéros de téléphone, pas un seul qu'il aurait eu envie de composer. Et puis les 2 ou 3 numéros manquants, ceux qui avaient compté pour lui et qu'il savait encore par cœur, ne répondraient plus. Vers 9 heures du matin, le téléphone sonna. Il venait de se réveiller. « Monsieur Daragan, Gilles Ottolini !» La voix lui parut moins agressive que la veille. « Je suis désolé pour hier. J'ai l'impression que je vous ai importuné. » Le ton était courtois et même déférent. « plus du tout cette insistance d'insectes qui avait tant gêné Daragan. Hier, j'ai voulu vous rattraper dans la rue. Vous êtes parti si brutalement. » Un silence. Mais celui-ci n'était pas menaçant. « Vous savez, j'ai lu quelques-uns de vos livres, et en particulier « Le noir de l'été ».« Le noir de l'été ». Il mit quelques secondes avant de réaliser qu'il s'agissait en effet d'un roman qu'il avait écrit, jadis. Son premier livre. C'était si loin. J'ai beaucoup aimé « Le noir de l'été ». Ce nom qui figure dans votre carnet d'adresse et dont nous avons parlé, Torstel, vous l'avez utilisé dans Le Noir de l'été. Daragan n'en avait aucun souvenir. Pas plus d'ailleurs que du reste du livre. Vous en êtes sûr? Vous ne faites que citer le nom. Il faudrait que je relise Le Noir de l'été, mais je n'en ai plus un seul exemplaire. Je pourrais vous prêter le mien ? Le ton parut à Daragan plus sec, presque insolent. Il se trompait sans doute. À cause d'une trop longue solitude, il n'avait parlé à personne depuis le début de l'été. Vous devenez méfiant et ombrageux vis-à-vis de vos semblables et vous risquez de commettre à leur égard une erreur d'appréciation. Non. Ils ne sont pas aussi méchants que ça. Hier, nous n'avons pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que vous lui voulez donc à ce Torstel ? Daragan avait retrouvé sa voix enjouée. Il suffisait de parler avec quelqu'un. C'était un peu comme les mouvements de gymnastique qui vous rendent votre souplesse. Apparemment, il est mêlé à un ancien fait divers. La prochaine fois que nous nous verrons, je vous montrerai tous les documents. Je vous ai dit que j'écrivais un article là-dessus. Ainsi, cet individu désirait le revoir. Pourquoi pas ? Depuis quelque temps, il éprouvait une certaine réticence à la pensée que de nouveaux venus puissent entrer dans sa vie. Mais, à d'autres moments, il se sentait encore disponible. Cela dépendait des jours. Il finit par dire... Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je dois m'absenter 2 jours à cause de mon travail. Je vous téléphone à mon retour et nous prendrons rendez-vous. Si vous voulez. Il n'était plus dans les mêmes dispositions qu'hier. Il avait sans doute été injuste avec ce Gilles Ottolini et l'avait vu sous un mauvais jour. Cela tenait à la sonnerie de téléphone de l'autre après-midi qui l'avait sorti brutalement de son demi-sommeil. Une sonnerie si rare depuis quelques mois qu'elle lui avait fait peur et lui avait semblé aussi menaçante que si l'on était venu frapper à sa porte à l'aube. Il n'avait pas envie de relire Le Noir de l'été, quand bien même cette lecture lui donnerait l'impression que le roman avait été écrit par un autre. Il demanderait tout simplement à Gilles Ottolini de lui photocopier les pages où il était question de Torstel. Cela suffirait-il à évoquer quelque chose pour lui ? Il ouvrit son carnet à la lettre T, souligna au stylo bille bleue Guy Torstel, 423-40-55, et ajouta à côté du nom un point d'interrogation. Il avait recopié toutes ses pages d'après un ancien carnet d'adresse, en supprimant les noms des disparus et les numéros périmés. Et sans doute ce Guy Torstel s'était-il glissé tout en haut de la page à cause d'une minute d'inattention de sa part. Il faudrait retrouver l'ancien carnet d'adresse qui devait dater d'une 30aine d'années. Et peut-être la mémoire lui reviendrait-elle, quand il verrait ce nom parmi d'autres noms du passé. Mais il n'avait pas le courage aujourd'hui de fouiller dans les armoires et les tiroirs. Encore moins de relire Le Noir de l'été. D'ailleurs, depuis quelque temps, ses lectures s'étaient réduites à un seul auteur, Buffon. Il y trouvait beaucoup de réconfort grâce à la limpidité du style et il regrettait de n'avoir pas subi son influence, écrire des romans dont les personnages auraient été des animaux, et même des arbres ou des fleurs. Si on lui avait demandé aujourd'hui quel écrivain il aurait rêvé d'être, il aurait répondu sans hésiter « un buffon des arbres et des fleurs ». Nous avons terminé pour ce soir cette lecture du roman de Patrick Modiano que nous reprendrons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.